Octave Mirbeau, des artistes, nos bons artistes. Le commerce des tableaux languissait. Stuart était mort, Vanderbilt rognait sur les prix. Chacun pouvait se payer, moyennant 100 000 francs, l'inamovible et trognonnant cardinal de M. Vibert. Les passepoils et les sabretaches de M. Meissonnier tombaient brusquement à 150 000 écus. M. Bougreau voyait les cuisses sirolithographiques de ses nymphes et les jambes pédicurées de ses bergers bibliques dégringolaient au prix dérisoire de 40 000 francs. M. Cabanel, à qui ses portraits, l'un dans l'autre, ne rapportaient plus que 30 pauvres 1000 livres, rêvait à de vagues modernismes, combinait Raphaël avec Manet, Le Vinci avec Pissarro, pour arriver à peindre une audacieuse figure noire sur un révolutionnaire fond gris. Et l'éternelle corégienne de M. Henner, désolée au bord de la même fuligineuse mare, tentait d'éteindre l'inutile incandescence de son torse en magnésium dans la terre de sienne de son ordure. Déjà, dans les grands bric-à-brac de l'avenue de Villiers, les peintres affolés déclouaient des murs leurs peluches aux reflets de cuivre, leurs tapisseries aux décolorations anciennes, remplaçaient leurs bahuts historiques vendus par le japonisme à 13 sous des bazars. Ils ne recevaient plus. Monsieur Coquelin, las de tenir la pose, ne sachant plus au fond de quel grenier remiser ses 1800 portraits sans valeur, ne venait plus leur réciter les prunes et leur parler de ses écrits. Et les larbins, dépouillés de leur correcte livrée, lavaient les tristes brosses de leur maître d'un air humilié. C'était le désastre, la faillite, la fin de la belle apothéose. Qui sait s'ils ne songèrent pas alors à retourner, les uns, dans les Hindenstrasses de Vraukwurt, d'où ils étaient échappés au bruit de la curée, les autres, sur la plage de Sorrente, où ils avaient passé leur petite jeunesse à cabrioler, en l'honneur des signories venus de Sheffield, à avaler la gueule en l'air les 2 soldis de l'Académie Macaroni, chers à M. Boulanger, pas le général, l'autre, le pompier. C'est à ce moment de détresse qu'ils se réunirent. Et ce fut très comique. Outre que leur but était de rattraper les hauts prix et d'organiser la vente sur des bases nouvelles, nos bons artistes avaient assez, Dieu me pardonne, de la tutelle administrative. Ils repoussaient l'ingérence de l'État dans leurs petites affaires comme attentatoire à leur dignité de créateurs. Ils ne voulaient plus être bureaucratisés dans les ministères, asservis aux paperasseries abaissantes de la direction des beaux-arts. Un art libre, des jurys libres, des récompenses libres, des cimaises libres, des commandes et des décorations, voilà ce qu'ils réclamaient. Un souffle de liberté passait sur eux, de liberté et de prix fort. L'Institut lui-même dansait la carmagnole sur ses vieilles et tremblantes jambes de paralytique. Ce fut une explosion superbe d'indépendance. L'art ne devait pas, l'art ne pouvait pas. Est-ce que l'art, par hasard? Pour qui prenait-on l'art? L'art, l'art, l'art. Donc, ils se réunirent. De cette réunion naquit une société, libre bien entendu. De cette société, un comité de 90 membres, renouvelable tous les 3 ans, libre aussi. De ce comité, un jury, libre toujours. De ce jury, cette chose innommable, invraisemblable, abominable et libre, le salon actuel. Et, comme ils avaient fièrement secoué le joug des servitudes officielles, comme ils étaient devenus immensément libres, il arriva que le nouveau salon fut naturellement plus impitoyable, plus fermé aux hommes de talent, plus doux aux médiocres, plus accessible aux galantes faveurs que l'ancien. Du coup, toutes les jeunes élèves de l'atelier Julien, que corrigent messieurs Bougreau, Boulanger, Jules Lefebvre et d'autres encore, entrèrent librement à la suite de leur maître et l'on vit s'étaler sur les simèzes, jugés trop nobles pour un Whistler, pour un Claude Monet, un Renoir, un Lebourg, des cocasseries scandaleuses et stupéfiantes, torchées entre deux coups d'éventail qui forment aujourd'hui le fond du salon, de ce salon qui ferait sourire de pitié le papou le plus dénué de sens artiste. On peut s'étonner que ces gens-là en soient encore à se distribuer, comme des collégiens, un tas de récompenses bizarres, des prix d'honneur, des mentions honorables, des accessites. Ne croyez pas que ce soit la vanité qui les guide exclusivement vers ces conquêtes puériles. Certes, ils sont flattés qu'un ministre, déposant sur leur front des couronnes en papier doré, les félicite, dans le charabia que l'on connaît, de leur assiduité au travail et de leur bonne conduite. Mais il y a autre chose. Ils savent très bien que les commandes de l'État et celles des amateurs vont aux seuls peintres et sculpteurs, graveurs et architectes, dont les noms sont au catalogue d'exposition, suivis de signes distinctifs et glorieux, et qu'il n'y a pas d'exemple, en cette époque de lumière, qu'on ait commandé quoi que ce soit à un pauvre diable de brave artiste qui ne serait pas écrasé de médailles et fourbu d'honneur. Vous pensez, si, une fois maîtres chez eux, ils en jouèrent de la médaille et de tout ce qui s'ensuit. Même, ils inaugurèrent un système ingénieux, particulièrement plaisant, qu'on pourrait appeler le système de la médaille préventive, et qui consiste à fixer d'avance, pour une période de 3 ou 6 ans, l'attribution des médailles d'honneur à des artistes déterminés. Ainsi, cette année, la médaille d'honneur doit échoir à M. Benjamin Constant. L'année suivante, à je ne sais plus qui. L'année d'après, à M. Flamingue Gendre. On ignore ce que ces pré-médailleux feront et s'ils feront quelque chose, s'ils seront morts ou vivants, ou bien si, désabusés de la mauvaise peinture, ce qui n'est pas probable d'ailleurs, ils ne s'établiront point dans l'intervalle agriculteurs, avocats, journalistes ou bottiers. Il n'importe. Ils doivent avoir la médaille. Ils l'auront. Et, pour donner à ce système un plus grand air d'imprévu et d'impartialité, il a été décidé en outre qu'une année sur 4, il ne serait pas accordé du tout de médaille d'honneur. N'est-ce pas une bien belle chose que l'art, pareillement organisé, et comme l'Amérique a raison de nous l'envier? La société libre aurait pu s'en tenir à ses réformes admirables et hardies. Elle suffisait à sa gloire. Mais elle avait d'autres projets encore. Elle inventa les bourses de voyage, œuvre féconde. De bons jeunes gens, en général, fruits secs des concours, furent choisis par elle, qui, munis de 3 000 francs, allèrent à Rome pour y continuer d'une façon définitive le travail de déformation, d'étouffement, d'impersonnalité, commencé dans les enseignements de l'école. Ce qui faisait dire à Courbet, parlant des pensionnaires de la Villa Médicis, « Pourquoi les envoie-t-on là-bas, ces pauvres bougres-là? Ils ne sont donc nés nulle part ?» Et ce n'est pas tout. Entre chaque tableau, au pied de chaque statue, s'ouvrit le trou béant d'une cagnotte. On creusa des troncs jusque sur la porte des water-closets et la plaque de fonte des urinoirs pour y recevoir le sou du denier des artistes. Au coin de chaque salle, ainsi que dans les magasins de nouveautés, des amorces furent tendues à la naïveté abrutie des passants. Dans les escaliers, les vestibules, alternant avec les tapisseries et les gigantesques croûtes, Des affiches s'étalèrent, omnicolores et braquant sur le porte-monnaie du public la gueule de 1000 canons chargés de chiffres de fort calibre. Et les loteries succédèrent aux loteries, les tombolas aux tombolas. On s'attendait même à voir de vieux prix de Rome, aveugles et vermineux, une sébile sur le ventre, une clarinette sous le bras, nasillés d'une voix dolente dans les groupes. « Pour les pauvres artistes français, mon bon monsieur, s'il vous plaît !» Ce qui, en l'ancien salon, bien timoré pourtant, bien rétrograde, ce qui, par-delà les routines administratives, les intrigues inévitables, les compétitions farouches, surnageait encore d'un peu propre, d'un peu respectable, d'un peu artiste, fut noyé dans le salon nouveau. Une lueur, bien faible, bien tremblotante, brûlait encore dans la lampe sacrée du temple. La société libre l'éteignit. Aujourd'hui, les artistes se réunissent. Ils vont renommer le comité de 90 membres dont les pouvoirs expirent. L'agitation est grande dans ce monde spécial. Les ateliers se transforment en centres mystérieux de conspiration. Des hommes farouches glissent le long des murs, se hâtant à de sombres rendez-vous. L'Institut est inquiet. Que va-t-il se passer ? Monsieur Benjamin Constant tremble déjà pour sa médaille promise, et Monsieur Flamingue tourne vers son beau-père, désormais inutile, des regards chargés d'angoisse. « Qu'est-ce que cela peut bien nous faire ? Je vous le demande. Et où est l'art dans tout cela ?» Les uns, les maigres, éliminés des jurys et privés par conséquent de tous les avantages qu'entraîne la qualité de juré, veulent renverser les autres, les gras, pour se gorger à leur place et faire exactement ce que faisaient ceux-ci. Les uns et les autres ont raison, les premiers d'attaquer, les seconds de se défendre. Et nous n'avons point à nous occuper de ces louches intérêts de boutique, de cette lutte de marchands envieux. De même que les députés qui braillent ne sont point la France, de même ces artistes ne sont point l'art. L'art est ailleurs. Ils travaillent loin du bruit, loin des passions vaines, loin des intérêts avilissants, et poursuit son œuvre dans la paix des choses, dans l'amour de la nature, qui est la souveraine beauté et la souveraine richesse. Il fuit de plus en plus la cohue des expositions, où il faut subir non seulement l'imbécilité des foules, mais des contacts de camaraderie déshonorants et qui salissent. Ceux qui l'aiment savent le trouver dans la retraite où il se cache. Un siècle qui produit 20 grands artistes est un siècle fécond. Comptons les nôtres. Nous les avons. Vous pouvez reclouer vos tapisseries et nommer des comités, et vous, les autres, ceux des Champs-Élysées. Figaro, 23 décembre 1887.